Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmoni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
La transition est en marche au Mali. Les femmes sont-elles impliquées et engagées dans le processus? Quelles sont leurs préoccupations? Sont-elles réalisables dans le contexte actuel? Comment? Quels peuvent être les rôles des différents acteurs pour la prise en compte des préoccupations des femmes? On en parle dans ce grand dialogue de Studio Tamani. Nos invités sont Kadiatou Keita, chercheuse, Togola Awasemega, directrice de Kounafoni.com, et Abdoulaye Doucouré, avocat sans frontières Canada au bureau du Mali. Je suis Arkia Touré. Mesdames et messieurs, bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par vous, Kadiatou. À votre avis, quel pourrait être votre point de vue sur l'évolution du processus de la transition au Mali?
Il serait trop tôt de parler de l'évolution de la transition, étant donné que l'on vient tout juste de commencer.
On a déjà un président.
On a déjà un président.
Et le premier ministre qui est déjà connu. Est-ce que vous pensez déjà à ce niveau, ça va?
Alors, on a un président, on a un vice-président et on a un premier ministre qui sont connus, effectivement. Et même là, à ce niveau, il faudrait dire où sont les femmes?
Voilà.
Où sont les femmes dans ce dispositif mis en place? Alors qu'on sait qu'au Mali, là, actuellement, il y a une loi qui existe, qui est là, la loi 052, qui prévoit que les femmes doivent occuper 30% au moins des postes législatifs et exécutifs. Et là, on voit qu'on a un exécutif à trois têtes, sans aucune femme. Ouais, où sont les femmes, on dira?
Voilà. Donc, pour vous, il y a déjà des failles au niveau du départ. Monsieur Doucouré, est-ce que vous êtes du même avis que Kadiatou?
Merci, madame. En fait, c'est un constat, mais on attend voir avec les autres organes de transition où va être la place des femmes ou le niveau de participation des femmes dans cette transition.
Est-ce que déjà vous pensez que les femmes vont être impliquées?
Bon, ça ne décrète pas, hein, je dis, parce que la participation de femmes au processus de paix, moi je pense que c'est un débat d'actualité qui a évolué aussi depuis des décennies, mais la question qu'on se pose pour le contexte malien, c'est comment participer les femmes au processus de paix. Dans ce processus de mise en place des organes de transition, moi je... Effectivement, on pouvait avoir un président, une présidente de la transition ou une premier ministre comme chef de l'exécutif, mais il faut le reconnaître aussi, il y a beaucoup de facteurs, certainement on va arriver à ces facteurs de blocage qui font que la participation de femmes au processus de paix de manière générale laisse à désirer.
On va se poser aussi la question, est-ce que les femmes ont demandé à participer? Parce qu'on a demandé les CV et autres. Est-ce que des femmes ont postulé? C'est la grande question.
Est-ce que les femmes ont postulé? Oui. Alors, quand on a demandé les CV, ben, si on parle des CV, on voit que les CV, en tout cas, les personnes dont les CV ont été rendus publics n'ont pas été choisies. Oui. Alors, est-ce qu'il fallait déposer un CV pour être choisi? Je ne pense pas. Vous dites, est-ce que les femmes ont demandé à participer? Est-ce que les hommes ont demandé à participer?
Ben peut-être les hommes se sont exprimés.
Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est les femmes, dans la société, on a les femmes qui, autant que les hommes, ont des choses à dire et sont tout aussi compétentes. Alors, si on part de ce point de vue-là, on peut dire que le choix d'une femme, c'est quelque chose qui s'impose, en fait, en réalité, tout comme on va parler du choix d'un homme. On n'a pas besoin qu'une femme sorte sur la place publique pour dire « je suis intéressée » pour qu'on puisse dire « ah ben, tenez, il y a une femme qui a exprimé son point de vue ». Et même là, vous parlez des CV. Sur les CV, il y a une femme qui était là. Alors, une femme sur 14 personnes, c'est effectivement insuffisant et il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Mais c'est un plaidoyer à faire, effectivement.
Effectivement, OK. Et là, est-ce qu'on peut, à ce stade-là, on peut parler des préoccupations des femmes pour cette transition?
Oui, on peut parler de préoccupations des femmes. Alors, je pense que les préoccupations des femmes sont les mêmes, je dirais, que celles des hommes. On a tous les mêmes préoccupations actuellement, que ce soit les questions de défense, que ce soit les questions de sécurité. Les préoccupations sont les mêmes, ou même de réforme institutionnelle, tout simplement. Les femmes, tout comme les hommes actuellement, ont ces préoccupations-là. Et encore une fois, si vous parlez de la place dédiée aux femmes, comme le disait Monsieur Doucouré, là, on a l'exécutif, on a le Premier ministre qui est là. On espère que dans le gouvernement de transition, on aura une part belle aux femmes.
Monsieur Doucouré, quand on parle de préoccupation pour les femmes, pour cette transition, est-ce que vous avez un avis à donner?
Justement, moi, je pense qu'il y a deux niveaux, en fait. Je reviens sur l'élément de réponse de Mme Keïta. C'est la question de savoir est-ce que les femmes ont demandé à participer, est-ce que aussi les hommes ont demandé à participer. Moi, je pense que pour émerger dans ce sujet, il faut sortir du vieux débat, dire que il faut que les femmes participent. Parce qu'aujourd'hui, avec le développement, on voit que les femmes ont les mêmes compétences que les hommes. Et s'il y a des mesures, c'est vrai, des mesures pour promouvoir la participation des femmes, du genre de manière générale, au processus de paix qui a été mis en place avec la loi numéro 052, mais qui ne parle pas spécifiquement des femmes. Ça, il faut le dire, même si c'est le contexte malien. Quand la première fois que j'ai lu la loi, qui est une courte loi d'ailleurs, avec quelques articles, en comparaison avec d'autres contextes, on voit que, oui, je crois que c'est une sorte de loi qui favorise de manière générale la participation, que ce soit des hommes ou des femmes. Mais pour le contexte malien, culturellement, on a plus de femmes qui sont plus ou moins marginalisées dans le débat public que les hommes. C'est pourquoi ça favorise aussi la participation des femmes. Dans d'autres contextes, je prends l'exemple que je connais bien, le contexte canadien, mais c'est le vice-versa, c'est le contraire qui s'est produit là-bas. Dans ma structure, Avocats sans frontières Canada, on a plus de femmes que des hommes. Et là, on incite la participation des hommes d'ailleurs. Donc, c'est pour dire que c'est question de contexte. Maintenant, moi, je dis qu'on doit évoluer. Aujourd'hui, avec la transition, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, avec les programmes de réforme qui sont en cours, il faut mettre des mesures qui incitent réellement cette égalité entre hommes et femmes en termes de participation dans le débat public. Tant que cela n'est pas fait, je pense qu'il ne faut pas qu'on reste dans le rôle de dire que non, les femmes doivent participer. La participation doit être active et non passive. Passive, c'est-à-dire on ne peut pas juste dire que oui, tu es femme, forcément il faut mettre, il y a deux hommes, il faut mettre une femme ou il y a deux. Non, moi je pense que ça va être juste une simple représentation et qui n'apporte absolument rien. Il faut que si on incite, en même temps, il faut aussi encourager la qualité de participation des femmes au débat. Donc, dans cette transition, moi, je pense que les réformes institutionnelles et politiques qui vont être entreprises, là, il faut évidemment une réforme inclusive et dynamique. D'accord. Pour promouvoir la participation des femmes.
Awa Semega, vous êtes directrice de kunafoni.com. On parle de la participation des femmes à la transition. Est-ce que vous pensez que les femmes ont des préoccupations à exprimer au cours de ce processus?
Bon, je pense que les femmes, forcément, ont toujours des préoccupations. Comme le disait l'intervenant tout à l'heure, excusez-moi de ne pas préciser le nom. Comme toujours, hein, au Mali, en fait, la femme, dans la plupart du temps, elle est beaucoup absente dans les débats publics. Ça, il faut le reconnaître. Absente pourquoi ? Pour de multiples raisons, raisons sociales ou parfois aussi complexes au niveau des femmes qui ont peur parfois même des débats publics, politiques surtout. Et alors qu'il est extrêmement important pour les femmes justement de s'intéresser à cette question-là, parce qu'on ne peut pas construire une nation tout en excluant une certaine frange de la population, notamment que les femmes représentent 50,4% de cette population-là. Et il y a des femmes valables dans ce pays. Il y a des femmes qui sont là, dans tous les secteurs, hein, il faut le dire. Il y a qui ont de grands diplômes, qui ont de grandes compétences. Et je pense que ce n'est pas le fait qu'elles ne s'intéressent pas beaucoup à ça, mais on a tendance à les oublier. Pourquoi ? Parce qu'il faut oser. Et au Mali, il y a ce complexe de timidité, quelque peu dans la... Les hommes osent parfois certaines choses que les femmes n'osent pas.
Au début, on a parlé, voilà. Parce que là, on a le président, le vice-président, mm-hmm. Le premier ministre. On n'a pas des femmes. Est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce que les femmes étaient vraiment intéressées à... Est-ce qu'elles se sont exprimées?
Je pense que les femmes, ce n'est pas le fait qu'elles ne soient pas intéressées. Mm-hmm. Mais c'est peut-être dû à certaines. Je ne pense pas que ce soit dû à un problème de femmes, mais plutôt une sélection qui a été faite, pas en tenant compte du fait que ce sont des hommes ou autre chose, mais pour certains paramètres de mon point de vue. Mais je pense que dans le gouvernement de transition qui va être constitué, il y aura, je l'espère, un quota, comme le disait tout à l'heure monsieur
Doucouré.
Monsieur Doucouré. Des 30% là qui seront respectés du genre. Et quand on dit genre, c'est pas les femmes seulement, ouais. c'est et les hommes et les femmes, et d'autres paramètres qui sont tenus en compte. Donc je pense que les femmes peuvent faire leurs preuves, elles l'ont déjà fait par le passé, et pendant ces 18 mois de transition là, elles peuvent montrer beaucoup de choses, et elles ont beaucoup d'attentes.
Kadiatou, je sais pas, est-ce que vous pensez que les préoccupations des femmes urbaines sont-elles différentes de celles qui sont au niveau rural?
Alors, chaque contexte a ses spécificités, bien sûr. La vie au niveau rural et la vie au niveau urbain ne sont absolument pas les mêmes. Au niveau rural, on a beaucoup plus de difficultés dans la gestion de la vie quotidienne. Pour cuisiner, parfois, il faut parcourir des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Pour donner naissance, parfois, on n'a même pas accès à un centre de soins de qualité pour pouvoir le faire. Alors, juste pour ces raisons-là, bien sûr qu'il y a des spécificités à prendre en compte. Mais je pense que globalement, comme je disais, au niveau rural ou comme au niveau urbain, en fait, les préoccupations sont les préoccupations qui restent les mêmes, sont les préoccupations de sécurité, sont les préoccupations au niveau économique, sont les préoccupations de vouloir une meilleure vie pour soi, pour sa famille. Donc, encore une fois, il y a des spécificités, mais on se retrouve sur l'essentiel.
Ok. Et concrètement, est-ce que vous pensez que les femmes ont un rôle à jouer dans ce processus de transition?
Cela va de soi que les femmes ont un rôle à jouer dans le processus de transition. Les femmes sont au cœur du développement. Il y a une citation que j'aime bien qui dit que les femmes constituent la moitié de l'humanité et qu'elles ont donné naissance à l'autre moitié de l'humanité. Et donc, partant de ça, je pense que rien ne peut se faire sans l'apport des femmes. Et là, actuellement, au Mali, comme le disait Mme Séméga, on a des femmes vaillantes. On a des femmes qui ont fait des propositions de sortie de crise. On a des femmes qui ont manifesté lorsque la situation n'allait pas et qu'elle dégénère et que la situation ne va pas dans le sens qu'elle souhaite. Donc, il va de soi que non seulement les femmes vivent les problèmes au quotidien, mais qu'elles sont aussi force de solution, qu'elles apportent la solution et qu'elles doivent forcément avoir une place à la table pour pouvoir non seulement parler de ces solutions, mais aussi avoir la chance de les mettre en œuvre.
Ok, M. Doucouré, on parle cette fois-ci des rôles que peut jouer la femme au cours de cette transition.
Bon, d'abord, il y a question d'appréciation, en fait. Moi, je pense que c'est ça que je disais justement. Si on veut évoluer sur ce sujet justement, il faut appréhender autrement la participation des femmes au processus. C'est des questions de représentation. C'est pas seulement des femmes, même si l'accent est mis, mais aujourd'hui, surtout le contexte malien, c'est qu'il y a beaucoup de couches qui sont écartées, y compris les femmes. On peut prendre comme exemple et essayer d'avancer en termes d'argumentaire la nécessité d'implication des femmes au processus de paix, de manière générale. D'abord, oui, on parle de la transition. Mais la transition malienne n'est pas seulement une simple transition politique. C'est aussi une transition sécuritaire et de développement de manière générale. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut une combinaison générale et une participation inclusive à ce processus-là. Qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? On remarque justement ceux qui sont connus. Ceux qui sont connus, c'est ceux qui ont été dans le pouvoir ou à côté du pouvoir, mais qui sont quand même connus, qui sont là. Moi, je pense que dans un contexte comme le Mali, il faut creuser vraiment les ressources humaines, que ce soit des femmes. Je suis complètement d'accord aujourd'hui. On ne peut pas raser la tête d'un absent. Donc, il faut évidemment, de manière égalitaire, à tous les niveaux, à tous les mécanismes de la transition, essayer de faire participer toutes les composantes de la nation. Si cela n'est pas fait, ça va encore laisser un vide, un grand vide, où on va tenter dans le futur aussi à résoudre. Donc, tant que cela n'est pas fait, c'est... Donc, je ne parle pas seulement la participation des femmes, mais la participation inclusive
de, tout le monde.
De toutes les couches qui composent la société malienne.
Mais ce soir, on veut parler des femmes.
Des femmes, évidemment. Moi, c'est ça que je dis. D'habitude, dans les discussions, moi, je dis souvent, on a l'impression que les femmes au Mali, c'est des sous-hommes, c'est des gens très vulnérables. Non. Quand on veut une participation véritable des femmes dans cette transition, ne prenons pas des femmes comme une couche vulnérable, mais prenons les femmes comme des actrices du développement, comme des actrices qui peuvent contribuer aussi là où les hommes ont failli. Donc c'est ça que moi je dis, on pouvait avoir au niveau de la primature une dame de fer, et même dans les négociations, ou en tout cas dans les supputations, on attendait certains noms où on était, personnellement j'étais content souvent d'avoir telle ou telle femme que tel ou tel homme dans tel ou tel poste. Maintenant, moi je pense que dans les gouvernements, comme ça a été dit, vraiment il ne faut pas que ça soit quelque chose des anciens amis ou des politiciens qui vont jouer ce rôle-là. Aussi les jeunes peuvent aussi participer, les femmes, tout comme d'autres couches. Ça, je mets l'accent sur ça. Mais ne prenez pas pour prendre au sérieux la participation et l'importance de la participation des femmes au processus de paix. Moi, je pense que appréhendons comme une nécessité et une obligation que seulement pour satisfaire les critiques. Non. Il faut prendre ça comme un atout en soi.
Oui. Je voulais rebondir sur justement. La participation des femmes, justement, dans ce processus de transition-là. Dans le choix du nouveau gouvernement et des différentes institutions, les directions et autres, il faut que les gens fassent très attention à ne pas dire, bon, on va respecter le quota de 30% et on va prendre des femmes pour les mettre. Il ne faut pas prendre des femmes juste pour les prendre. Il faut que ce soit des femmes qui ont des compétences, des capacités, qui ont fait des preuves. Et ça ne manque pas au Mali. Je pense que ça ne manque pas du tout. C'est extrêmement important. Il y a beaucoup de femmes technocrates, directrices dans tous les secteurs du développement au Mali. Donc je pense que c'est extrêmement important de tenir compte de ce point.
Ok. Je pense que peut-être pour rebondir, je pense que la crainte, quand on parle de participation des femmes, il ne doit pas y avoir de crainte à ce qu'on fasse du tokenisme, en fait, à ce qu'il y ait des femmes pour qu'il y ait des femmes. Je pense que, comme l'a dit Mme Semega, on a suffisamment de femmes compétentes ici pour que les femmes puissent jouer un rôle valable et que pour qu'on puisse avoir des femmes compétentes en fait véritablement qui aient une place dans la transition et qu'on ne dise pas ben c'est une femme, elle a été choisie uniquement parce qu'elle est une femme.
Et selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer la faible présence des femmes au niveau de ces institutions?
Je pense qu'il y a des facteurs de société. Il y a les facteurs de société. Il y a le fait qu'on est dans une société patriarcale avec une forte domination des hommes. Dans ce sens-là, je dis pas domination dans le sens de quelque chose de guerrier, mais voilà, avec une place belle qui est faite aux hommes. Ça explique. Et traditionnellement aussi, les femmes n'étaient pas associées au processus ou elles-mêmes ne prenaient pas suffisamment de poids dans ce processus-là. Donc, je pense qu'il y a vraiment les facteurs de la société qui expliquent cela. C'est qu'on a pendant très longtemps, c'était des femmes au foyer, même si une femme au foyer peut très, très bien être tout à fait capable et peut tout à fait être capable de gérer une nation ou même peut avoir les compétences pour le faire. Mais voilà, traditionnellement, en fait, la femme avait une place, qui était derrière l'homme et qui ne lui laissait pas beaucoup de place pour être associé à la gestion de l'État. Donc, je pense qu'il y a des facteurs traditionnels de société à regarder, à prendre en compte.
Ah ouais. Elle vient de citer quelques facteurs, notamment traditionnels, et puis en prise en compte de notre société, tout ça. Qu'en pensez-vous?
Moi, je pense que c'est pas totalement faux, mais il faut reconnaître que dans nos sociétés traditionnelles, avant, vous savez, les femmes avaient une place extrêmement importante. C'est ce côté-là qu'il faut. Les femmes, en fait, c'était les conseillères. C'est vrai, on dit la nuit porte conseil, les hommes prennent conseil auprès de leurs femmes, mais c'était pas que ça. Il y avait des femmes qui siégeaient dans ces groupes-là. C'est vrai qu'elles n'étaient pas au devant des choses, mais elles étaient en arrière et c'était elles les conseillères. Rien ne se passait, en fait, sans justement l'avis de ces femmes-là. Les décisions étaient prises, certes, mais ces décisions ont été prises en concertation avec les femmes. Je pense que c'est ce côté-là qu'il faut faire ressortir, justement, et montrer, en fait, à la jeune génération actuellement que la femme n'est pas que victime. Il faut arrêter de se victimiser. Cette mentalité-là, il faut qu'on arrête, il faut qu'on inculque, justement, l'éducation. C'est l'éducation d'abord en famille. Déjà, si tu éduques ta fille en lui faisant comprendre qu'elle a une valeur, elle a de l'importance, elle n'est pas victime, elle est capable de se défendre. Donc, dès la maison, déjà, si ça commence, ensuite l'école, et dans la société également, c'est extrêmement important. Je pense que ces paramètres-là aussi ne sont pas négligeables.
On vient de proposer quelques solutions, mais on va en parler. Mais là, on parle des facteurs, Monsieur Doucouré.
D'abord, je pense que de par le monde, ça a été toujours une révolution, le combat des femmes, pour leur émancipation de manière générale. Ce n'est pas commencé maintenant. Dans certains pays, sinon dans beaucoup de pays, même européens, les femmes n'avaient même pas droit de voter. Mais avec le combat, avec l'évolution, les femmes ont pris toute leur place. Pour le contexte malien et contexte africain de manière générale, moi je dirais il y a à peu près trois facteurs. Le premier facteur, c'est la dimension culturelle. Effectivement, dans le passé, on voyait les femmes avaient leur rôle. C'est ça que je dis. C'est-à-dire, c'est vrai, dans la gestion des affaires publiques, il y avait peu de femmes, mais les femmes avaient aussi leur rôle dans la gestion de la société. Que ce soit au rôle social, ménage, ainsi de suite. Et même quand on essaie de voir notre code, le code de personnel de la famille, je me rappelle à un débat au niveau africain où on dit ben, la charge de ménage qui incombe à la femme, c'est-à-dire les tâches ménagères, c'est aussi une contribution à la gestion du foyer. Supposons qu'il n'y avait pas de femme, le monsieur, il allait soit engager quelqu'un pour faire cette tâche-là. Donc moi, je pense qu'il faut évaluer le rôle que les femmes maliennes, africaines en général, jouent aussi au niveau de foyer. Donc il y a facteur culturel de manière générale, qui est dû aussi à l'éducation, à manque de l'éducation des filles. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, pour jouer véritablement sur ce facteur, il faut stimuler la participation des filles à l'école. Donc je pense qu'avec des cadres tant femmes, tant d'hommes, on n'aura pas, ce débat n'aura pas lieu. Deuxième facteur, c'est la rigidité. On a l'impression que les textes qui régissent ce secteur-là, cette question, sont restés intacts. Non, sont évolués. Ces textes sont évolués. Il faut que les États, les décideurs comprennent aussi que, oui, une femme qui arrive à avoir les mêmes compétences que les hommes, il faut offrir les mêmes sens. Donc moi, je pense que ça aussi, c'est un facteur qui doit être dynamique, qui doit être revu par les autorités politiques. Troisième facteur, c'est le manque d'expertise. Souvent, on dit ça. Il y a des fonctions qui sont dévolues naturellement aux hommes en Afrique, ou au Mali en particulier. Alors qu'en réalité, les femmes, aujourd'hui, commencent à développer des expertises où il faut, même en politique, par exemple, en politique aujourd'hui, il y a des femmes beaucoup plus battantes que beaucoup d'hommes.
Donc elles participent même aux révolutions qui participent, et tout,
effectivement.
Au combat.
Donc moi je dis, souvent, j'en conclue sur ce genre de sujet que prenons justement une amie, une fille, une sœur. Vous étiez à l'école ensemble, vous avez étudié. Peut-être souvent, elle t'a même devancé dans le rang. Donc maintenant vous sortez, tu connais sa capacité sur des sujets. Ça, ce n'est pas question sociale, hein. C'est question en famille, même directe. Donc, tu sais que moi, ma copine, ma soeur, ma grande soeur, elle est beaucoup plus intelligente plus que moi sur tel ou tel sujet. Donc, si tel est le cas, peut-être en termes de fonction, peut-être elle aura beaucoup d'habilité que toi. Donc, il faut sortir de ce rôle classique, dire que non, les femmes sont incompétentes, les femmes, ceci, ceci. Mais ce que moi, je ne veux pas vraiment développer, c'est de dire que non, il faut, comme ça a été dit, il faut juste donner pour satisfaire une obligation. Ça, c'est une insulte pour les femmes. Dire que non, oui, quota, on doit mettre les femmes pour faire valider. C'est comme la loi 052, oui. Où on dit dit, voilà, pour la validité d'une, la recevabilité d'une, de, d'une candidature, il faut au moins 30% de l'un ou de l'autre sexe. Moi, pour le contexte malien, c'est des femmes. Moi, je dis souvent, quand tu interroges ces femmes-là, bon, souvent, elles ont été juste une figurante, juste pour valider les candidatures. Mais tout le leadership est entre les mains des hommes. Donc là, ça ne résout pas encourageant. Mais plutôt, il faut traiter à la source, c'est-à-dire en termes d'éducation, en termes d'expertise, en termes de nécessité de participation.
OK. Kadiatou, M. Doukouré vient de parler des quotas, la loi 052. Est-ce que vous pensez que le système des quotas permet quand même de rétablir la normalité, voilà, des droits entre, concernant l'égalité, chance hommes et femmes?
Alors, dans un monde parfait, on n'aurait pas besoin de quotas, ni pour la participation des hommes, ni pour la participation des femmes au processus politique. Dans un monde idéal, et les femmes et les hommes pourront participer librement et de manière tout à fait égalitaire. Mais le problème, ce qu'il y a, c'est qu'on vient de parler notamment de certains facteurs qui font que les femmes sont... encore absente du débat politique. Alors, ces lois-là ne visent pas maintenant à dire, écoutez, on met une femme obligatoirement pour mettre une femme, mais ça vise déjà à encourager la participation des femmes et à agir sur les facteurs structurels. Et je pense que plus on va avancer, plus justement il y a un travail qui sera fait au niveau de l'éducation, donc comme on parlait, plus il y a un travail de plaidoyer et plus l'expertise dont il parlait pourra se développer, plus on pourra aller naturellement vers une participation des femmes au processus électorale. Mais pour l'instant, dans la structuration actuelle, on a besoin de quelque chose pour au moins impulser ce changement-là. C'est un début.
C'est un début, vous pensez que c'est nécessaire. Awa, est-ce que vous pensez que d'abord les quotas, est-ce que c'est une bonne chose?
Oui, forcément. En fait, je pense au départ, c'est 50-50 qui avait été demandé, mais 30 déjà, c'est déjà bon. Donc, je pense que c'est un bon début. Et d'autant plus dans l'application, on a vu avec la défunte Assemblée nationale où il y avait vraiment le respect de ce quota-là qui était assez représentatif. C'était la première fois qu'on voyait 42 femmes députées sur une centaine. Ça, c'était à saluer. Je pense que c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup, il est ressorti de beaucoup de nos enquêtes qu'il y a des partis politiques qui, en fait, parce qu'il faut savoir qu'en politique ici au Mali, c'est pas évident pour les femmes. Pourquoi ? Les rencontres de 2h, 3h du matin, pour une femme mariée, c'est assez compliqué, c'est difficile. Même une femme célibataire, c'est en fait mal vu. Donc je pense que cette pesanteur sociale-là aussi est beaucoup à revoir. Il faut vraiment sensibiliser énormément la population sur cela, parce que la place de la femme, c'est extrêmement important en politique. Une femme politique est souvent étiquetée de prostituée, excusez-moi du terme, et c'est un problème qui est là. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça commence à changer. Et même au sein de ces partis politiques-là qui ne favorisaient que les hommes, il faut le dire, les femmes commencent à se faire une place. Et je pense qu'il est important aussi pour les femmes de se lancer, de créer leur propre parti politique. Pourquoi rentrer dans un parti politique qui est à la base dirigé par les hommes? Créez vos partis politiques et lancez-vous.
Encore une solution.
Voilà, exactement.
D'accord.
Donc, je pense que la loi, elle est bienvenue.
M. Doukouré, elle pense que la loi, elle est utile. Et, bon, est-ce que vous pensez que là, qu'est-ce que vous proposez comme solution ou alternative?
La loi, oui, c'est vraiment un outil, un mécanisme fort pour encourager la participation des femmes. Mais encore une fois, moi je dis que c'est l'esprit de la loi, le contexte dans lequel la loi a été adoptée. C'est vrai, ça a été acclamé et puis les gens se sont félicités de ce combat. Mais ce qui reste à déterminer, c'est l'application, le respect de cette loi. Déjà que c'est une loi de la République et elle doit être respectée. Mais est-ce que c'est fait? C'est ça la question. Mm-hmm. On voit dans des élections, surtout législatives, oui, c'était vraiment une mesure encourageante pour participation des femmes, même si je regarde, je reste sur mon, ma position, dire que faut pas que ça soit vraiment une simple participation, il faut que ça soit vraiment une participation désireuse et une participation vraiment utile pour leur propre être et puis pour la société aussi. Mais est-ce que cette loi est effective? Moi, je dis non, parce qu'en termes de nomination, depuis 2015, surtout nomination, ça n'a pas été beaucoup respecté. On voit les institutions dans les nominations, dans les services publics, ainsi de suite, mais vraiment, la loi n'est pas respectée. Si on veut encourager, il faut que ça soit de manière générale à tous les niveaux. Mais si c'est une participation sélective, notamment pour l'élection législative locale, mais pour les nominations dans les institutions ou les services publics, c'est pas fait. Moi,
Est-ce que c'est obligatoire à ces niveaux?
C'est obligatoire, parce que c'est d'abord une loi, c'est dans la loi, et il doit y avoir, je pensais même qu'il y a eu à un moment un recours, mais qui a été qui n'a pas abouti, mais quand même c'est une loi de la République et ça mérite d'être respecté par les premiers chefs, c'est-à-dire les autorités de la République en termes de nomination dans des postes des services publics ou des institutions, etc. Il y a aussi l'autre facteur, mais quand dans la loi, c'est l'article 2 in fine qui dégage déjà certaines élections. Ça se comprend, parce que c'est ça que je dis, c'est un long et un gros combat, c'est pas seulement pour les femmes, mais pour toute l'humanité, parce qu'au Mali, l'article 2 in fine qui dit oui, pour les chefferies traditionnelles, tout ce qui est confession, culte et ainsi de suite, cette loi ne s'applique pas sur ça. Bon, ça se comprend, mais moi je pense que même dans les sociétés, ils devaient quand même réfléchir à un mécanisme où on pouvait prendre la voix ou les besoins des femmes dans la prise de décision à ces niveaux de prise de décision locale. Mais la loi exclut directement tout ce qui est chefferie traditionnelle et des cultes, les lieux de culte, ainsi de suite.
Ouais. Ok. Kadiatou, est-ce que vous pensez que les femmes sont préparées à relever les défis? Parce que certains pensent que les femmes qui sont recrutées au niveau des postes de responsabilité, elles ne sont pas capables, elles n'ont pas les compétences nécessaires. Parce qu'on a juste demandé, il faut que les femmes soient là, et on s'est débrouillé juste pour juste expliquer l'exigence qui est là. Quel est votre avis? Alors, est-ce que ces femmes sont capables? Concrètement.
Comme on l'a dit depuis le début et on va le répéter encore, les femmes capables, ce n'est pas ce qui manque au Mali. Les femmes capables, on en a. Les femmes capables, on en a à différents niveaux, que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans le secteur privé. Ce n'est pas ce qui manque. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. On en a parlé. Il y a beaucoup de défis à relever pour justement faire en sorte que l'on puisse avoir encore plus de femmes et que ces femmes puissent avoir les expertises dans le domaine dans lequel elles travaillent, peu importe le domaine d'ailleurs. Alors, de ce point de vue, dire est-ce qu'il y a des femmes compétentes, je dirais oui. Est-ce qu'on a la société qui permet justement à ce qu'on aille prendre ces femmes-là? Je pense que c'est tout l'objet de ce débat-là, c'est oui, en fait. On doit pouvoir être en mesure d'aller vers les femmes et de les choisir. Et la question de compétences aussi, c'est une question que l'on pose très souvent sur les femmes. On a dit, il faut arrêter de se victimiser, c'est vrai. Mais on a aussi des hommes qui ne sont pas compétents et qui occupent des postes de responsabilité. Okay. Donc, on peut aussi poser la question dans ce sens-là, si on le veut. Donc, oui, les femmes compétentes, il y en a forcément. Et oui, on doit pouvoir faire en sorte qu'elles participent au processus politique.
Ok. Ah ouais. Pour elle, le constat, ce n'est pas seulement au niveau des femmes.
C'est vrai, c'est assez général. Il y en a beaucoup. Hein. Il n'y a pas quelques. Il y a tellement d'hommes qui ne sont pas compétents. C'est important de mesurer, en fait. En fait, il faut donner l'égalité des chances à chacun. Hommes, femmes. En fait, il faut donner à compétence égale, diplôme égal, travail égal, job égal. Donc, je pense que c'est important de... Et puis, il y a un côté aussi qu'il ne faut pas négliger, notamment le copinage. C'est assez dommage. C'est ce qui est dans la plupart des secteurs au Mali. Que ce soit privé ou étatique, on nomme les gens ou on prend quelqu'un dans son entreprise ou bien dans son ministère parce qu'on connaît telle personne, même si cette personne-là n'a pas forcément les compétences nécessaires. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui ont les mêmes compétences et qui sont même plus compétentes.
Mais normalement, c'est les femmes qu'on indexe dans ce genre de situation.
Bon, ce n'est pas que les femmes, hein. C'est pas que les femmes. Il y a tellement d'hommes qui sont, il y a tellement de ministères, je ne veux pas les citer, qui sont remplis d'hommes incompétents, excusez-moi du terme, alors qu'il y a, il y a d'autres personnes qui sont là, qui peuvent très bien faire le travail et faire évoluer en fait l'administration. Mais c'est assez dommage, c'est ça le gros problème. Il faut qu'on arrête ça.
Parlons toujours de la loi. Est-ce que les femmes se sont impliquées pour son application?
Les femmes se sont impliquées, les femmes s'impliquent beaucoup. Mais il y a un autre facteur aussi qu'il ne faut pas négliger. En fait, les femmes sont les problèmes des femmes. Ça, il faut le dire.
J'allais poser la question. Est-ce qu'elles se soutiennent?
Le problème au Mali, c'est que les femmes, malheureusement, ne se soutiennent pas du tout. Et c'est un fait qui est là, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et c'est ça qui doit arrêter, en fait. C'est ça qui doit se terminer, ça doit finir. Parce qu'il ne faut pas te dire, par exemple, si elle, moi, je la vois aujourd'hui, elle a une telle capacité, et moi, dans mon entreprise, j'ai besoin de cette compétence-là. Mais parce qu'elle est femme, je la jalouse, je lui dis, ben, si je la prends, ça va faire ceci, cela. C'est ça, en fait, qu'on doit arrêter. Bien au contraire, on doit encourager ces femmes-là qui ont des compétences, qui ont des capacités. On doit les encourager dans ce qu'elles font et les aider à émerger.
Kadiatou, est-ce que les femmes se soutiennent? Est-ce que ce n'est pas un autre facteur qui empêche les femmes d'évoluer?
Alors, on a tendance à dire que les femmes ne se soutiennent pas, qu'elles se jalousent. Dans la société en général, les êtres humains se jalousent.
C'est normal.
Encore une fois, je dirais que ce n'est pas qu'un problème de femmes. Et c'est vrai qu'effectivement, oui, parfois on a tendance à voir que les femmes sont celles, en fait, qui découragent d'autres femmes. Moi, je vois ça comme un facteur...
De faiblesse?
Non, pas de faiblesse, mais je pense que c'est le système éducatif, en fait, qui fait ça. C'est-à-dire qu'on est éduqué aujourd'hui, en fait, que je le disais au début, qu'on est dans une société patriarcale, en fait, où très tôt, on dit aux femmes, ben, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Moi, ma nièce, je suis effarée quand je l'entends dire, ben, je ne peux pas faire ça, une femme ne doit pas faire ça, par exemple. Et je me dis, mais qui te dit ça? Souvent, c'est son maître qui lui dit ça. Je dis, mais hors de question que tu penses à des choses comme ça. Alors, une femme qui a été élevée comme ça, ou qui grandit comme ça, en ayant en tête ce qu'on dit qu'une femme ne peut pas faire, ben, le jour où elle verra une autre femme en train de faire ça, ben, elle ne va pas se dire, ah ben tiens, c'est super, mais en fait, on peut le faire. Elle se dira, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait, elle ne doit pas le faire. Donc, je pense que c'est vraiment le système éducatif dans lequel on est, dans la société dans laquelle nous sommes. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire là, de changement de mentalité des femmes elles-mêmes. Parce que,
par exemple, en 2018, on avait une femme candidate. On ne peut pas dire qu'elle a vraiment bénéficié des soutiens des femmes.
Oui, mais je pense que c'est ce que M. Dukouré aussi tentait de dire. C'est on se réunit aussi, on choisit. On ne va pas vers quelqu'un juste parce qu'elle est une femme. Et c'est aussi ce qu'on dit depuis le début de ce débat-là. On va vers quelqu'un parce qu'on estime que le projet de société, dans le cas précis, okay, que le projet de société qu'elle présente est un projet dans lequel on se retrouve. Donc, on ne va pas vers, justement, en disant, ben, c'est une femme, on va aller vers elle. Non, pas du tout. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a le système éducatif à revoir. Il y a les mentalités à revoir encore. Et en disant, oui, nous sommes capables. Si une femme aujourd'hui, ben, si je prends encore son exemple, une femme qui sort, qui participe à une réunion jusqu'à 2h du matin pour prendre son exemple, ben, même si son mari la soutient, même si son cercle restreint la soutient, ben, on trouvera une autre femme à côté qui dira, ben non, c'est pas normal, une femme à 2h du matin, elle doit être à la maison avec sa famille, avec son mari, avec ses enfants. Et je pense qu'elle ne le dit peut-être pas, parfois peut-être qu'elle peut le dire par jalousie, mais je pense pas que ce soit tout le temps par jalousie. Peut-être qu'elle le dit parce que dans son système éducatif, une femme à 2h du matin, elle est à la maison avec son mari et ses enfants.
Monsieur Dukouré, elle vient de parler. Bon, si, par exemple, si les femmes s'impliquent de façon active dans le processus de transition, selon vous, à quoi peut-on s'attendre?
Avant de répondre à cette question, j'ai envie de rebondir sur le dernier point.
En quelques minutes, parce que
justement, effectivement,
c'est le dernier
point. Le fait de dire que est-ce que les femmes sont capables? Moi, je dis pour le contexte malien. Oui, travaillons beaucoup sur l'argumentation religieuse, l'argumentation culturelle. Mais sur l'aspect, le facteur capacité, moi qui travaille dans un organisme international, j'ai des collègues écoutez, qui sont beaucoup plus compétentes que moi. Ben, écoutez, ça ne m'arrive pas à penser que vraiment je suis peut-être beaucoup plus capable que celle-là. Non, écoutez, c'est des collègues. Dans une relation ambiante, on arrive à faire de bonnes choses ensemble. Donc moi, ça ne m'arrive pas en tête que, en dire que, oui, elle est comme c'est une femme, écoutez, non. Moi, je pense qu'il faut dépasser à ce niveau. Il faut prendre la femme comme une personne humaine qui est capable de participer au même titre que l'autre sexe. Donc c'est ça, en fait, cette analyse qu'on doit faire. Mais sur l'aspect culturel, l'aspect religieux, là, on pourra beaucoup travailler sur ça dans les limites. Sur la question de la dividende de cette participation, comme ça a été toujours, c'est-à-dire une femme qui participe dans un processus de paix, c'est pas elle seule qui gagne, mais c'est toute la société qui en bénéficie. Donc je pense que si les femmes participent aujourd'hui, même en termes de développement, on verra beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui peut-être qui travaillent et qui subviennent aux besoins de toute une famille, de toute sa communauté, si on peut dire. Mais si par exemple sa femme ne travaille pas, peut-être elle est à la maison ou elle est dans d'autres tâches qui ne produit pas beaucoup. Mais maintenant, si la femme travaille et a des salaire égal peut-être que l'homme, peut-être elle pourra participer. Aussi, je dis, c'est parce qu'on a des textes dans le code de personnes de famille, la femme n'a pas l'obligation aussi de contribuer, mais elle peut aussi, elle désire faire, même si elle a un salaire supérieur à celui de son mari, ben elle peut contribuer à la charge de ménage, mais elle n'a pas l'obligation, parce que c'est le mari qui est chef de famille et il y a ces combats qui doivent continuer encore.
Ok. Selon vous, on va parler des solutions. On a parlé de la participation de la femme. À ce stade, que faut-il faire pour une participation égalitaire des femmes quand même à ce processus?
Alors, on est en transition. C'est pas des élections. C'est des nominations. Moi, je pense qu'il faut recevoir il faut concevoir les mêmes critères. Un critère. Mais ne regardez pas celui qui vient, mais regarde seulement, c'est-à-dire son CV, l'expérience, sa capacité, sans se dire que non, c'est une femme, si c'est un homme. Moi, je voulais voir l'expérience de voir d'abord le ministère de la promotion de la femme, de la famille. Moi, même dans la transition, ça doit être supprimé, à mon avis. Parce que le fait d'instituer toute une structure, c'est encore marginaliser les femmes. C'est encore les rappeler dans leur petit rôle de dire, voilà, on doit promouvoir vos sens. Alors que les autres, la jeunesse, est-ce que les femmes ne sont pas représentées? La justice, les femmes ne sont pas représentées? La sécurité, les femmes ne sont pas représentées? Donc, s'il y a un département pour dire femmes, moi, je dis que c'est une insulte. Les femmes doivent être représentées à tous les niveaux.
Est-ce que je peux rebondir très vite sur ça?
Très vite.
Alors,
proposer des solutions en même temps.
Peut-être de rebondir très vite sur ça. Un département de femmes, oui. Encore une fois, dans un monde idéal, oui, on n'aurait pas besoin d'un département uniquement sur les femmes pour faire émerger les questions des femmes. Mais la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que on a parfois besoin de ça parce que les préoccupations, on s'en rend compte, en fait, ne sont pas suffisamment prises en compte. Donc, ne serait-ce qu'un ministère pour porter ces préoccupations-là. Je pense que c'est un début. Encore une fois, quand on va atteindre l'égalité peut-être absolue, on n'aura pas besoin de ministère, je dirais.
D'accord. Pour solution, qu'il faut-il faire, au moins pour obtenir l'égalité?
Je pense qu'il faut déjà éveiller des consciences, discuter. Des solutions, c'est à plusieurs niveaux. Ce sont des solutions personnelles, au niveau de la société, au niveau de l'État. Personnellement, c'est déjà de se dire, ben, en tant que femme, on est capable, ou aussi d'encourager les femmes que l'on a autour de soi.
On va permettre à Awa de proposer des solutions rapidement.
La solution, c'est déjà que les gouvernants, les dirigeants en place tiennent compte lors des nominations dans les différentes institutions de la République, tiennent compte des femmes, du rôle des femmes.
Merci
et
beaucoup.
Et que les femmes aussi prennent conscience de ce qu'elles valent.
De ce qu'elles valent. Ok, ça sera le dernier mot de ce débat. Merci, chers invités, d'avoir répondu à nos questions. Le thème, c'était « Quelles sont les préoccupations des femmes pour la transition ?» Nos invités étaient Kadiatou Keïta, chercheuse, Togola Awa Semega, directrice de Kounafoni.com, Abdoulaye Doucouré, avocat sans frontières Canada au bureau du Mali, au niveau des régies vidéo Gagné Kanté, au niveau son Péting, la réalisation Mohamedou Touré. Je suis Arkia Touré. Merci de nous avoir suivis.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba. Et Dewani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.